autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, à la découverte d'une flore extraordinaire, encore méconnue et pourtant menacée de disparition, la flore tropicale africaine. Comment la recenser, comment l'étudier, comment la préserver? Autant de questions ouvertes grâce au travail collaboratif de botanistes engagés, au sud comme au nord, qui ont réussi à monter ensemble la première banque de données de la flore d'Afrique tropicale, dans le but de la partager et de l'étendre à tout le continent africain et au-delà, notamment sur le continent sud-américain. Un travail titanesque et absolument essentiel aujourd'hui pour évaluer et se donner les moyens de protéger cette formidable biodiversité tropicale dont un tiers pourrait être menacé. C'est un des premiers résultats obtenus par ces chercheurs engagés dans une science ouverte à tous les suds, comme nous l'expliquera par téléphone depuis Quito, en Équateur, le botaniste Thomas Couvreur de l'IRD. Nous joindrons aussi à Yaoundé au Cameroun le professeur Bonaventure Sonke, formidable découvreur, près de 60 nouvelles espèces à son actif et surtout formidable partageur de ses données et découvertes. Et puis l'écologue Gilles Deby de l'IRD qui nous fait le plaisir d'être avec nous en studio avant de repartir dans quelques temps pour l'île de Sao Tomé, juste en face du Gabon, autour de la question comment mieux connaître et préserver la flore tropicale africaine. Bienvenue sur les traces de bois rouges, d'éclatantes orchidées et de palmiers raffia.
Au laboratoire de botanique systématique et d'écologie de l'école normale de l'université de Yaoundé 1, les échantillons collectés sur le terrain sont déballés et analysés. Vouloir nommer, reconnaître et classifier les espèces et les essences qui nous entourent, tel est le besoin universel que l'on peut retrouver dans toutes les cultures du monde. Cette démarche, les scientifiques l'appellent taxonomie. Pour ce qui est du raffia, malgré leur importance vitale au sein de nos sociétés, ils restent mal connus. Quel paradoxe ! Nommer, identifier et classer toutes les espèces du raffia demeure un exercice très compliqué.
C'est le moins qu'on puisse dire et c'est ce qu'a découvert Ondoa Bikele, jeune étudiante camerounaise, dans ce documentaire consacré au palmier raffia, l'arbre de vie sous toutes ses formes. Même la musique que vous entendez a été composée par Oraline Ganmo. Elle est jouée avec des instruments à base de raffia. Un film signé par votre confrère Thomas Couvreur. Bonjour Gilles Deby.
Bonjour à tous, merci de me recevoir.
Merci d'être avec nous pour partager vos recherches et vos découvertes sur cette extraordinaire diversité de la flore tropicale africaine. Vous êtes Gilles Deby, écologue à l'IRD, au laboratoire de botanique et modélisation de l'architecture des plantes et des végétations à l'université de Montpellier, spécialiste des arbres, de l'okoumé endémique du Gabon, de l'afromorcia. C'est comme ça qu'on dit? Non, ça y est, j'ai fait une erreur.
Ah non, c'est pas une erreur, c'est oui, voilà, vous faites référence à une espèce que j'ai décrite, une espèce d'Afrotissimia que j'ai décrite il y a une quinzaine d'années.
Afrotissimia, ça c'est qui se retrouve, voilà, qui se retrouve de Côte d'Ivoire jusqu'en RDC. Et puis vous étudiez aujourd'hui la flore de Sao Tomé y Principe, où vous avez participé donc là-bas sur tous les terrains et en laboratoire à cette formidable aventure scientifique, la création de la banque de données RENBIO sur toute la flore de l'Afrique tropicale, qui permet déjà d'évaluer l'étendue de nos connaissances, mais surtout de notre ignorance finalement, et de nous alerter. C'est le titre de la dernière publication commune qui est parue dans la prestigieuse revue Science Advance. Près d'un tiers de la flore tropicale africaine est menacée d'extinction avant même d'être finalement recensée, étudiée, connue, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes, Gilles Deby.
Oui, tout à fait. Donc on a pu mettre en évidence qu'il y avait quasiment 30% des espèces connues en Afrique tropicale qui seraient potentiellement menacées, et en plus de ça, 30% pour lesquels donc on considère qu'ils sont assez rares, mais qui pourraient aussi devenir dans un futur très proche également menacés. Donc on a vraiment via cette approche pu montrer qu'il y avait une très grande proportion de la flore tropicale africaine connue, et donc ça veut dire qu'on prend même pas en compte les nombreuses espèces qui sont nouvellement décrite chaque année.
Et c'est dans ce but d'ailleurs au départ qu'a été créée en commun cette banque de données. C'était déjà pour savoir ce qui existe et pour savoir aussi quoi, comment c'est réparti, lesquels sont en danger ou pas. Enfin, dès le départ, c'était quand même ça le but, de recenser pour connaître, comprendre et pouvoir mesurer l'évolution et l'étendue des dégâts futurs.
C'est ça, il y avait vraiment multiples objectifs. Donc déjà, le premier objectif, c'était vraiment de faire un état des lieux, des connaissances, Donc, finalement, de se rendre compte de ce qu'on connaissait, mais surtout de se rendre compte de l'état de notre méconnaissance, donc les régions qui étaient très mal connues en termes de leur diversité, mais aussi dans un deuxième temps de comprendre, de mieux caractériser les motifs de diversité, de biodiversité, donc dans les endroits où on retrouve le plus d'espèces, et donc au final aussi arriver à des propositions concrètes pour améliorer leur conservation.
Et oui, parce qu'heureusement, il y a des pistes. Alors, il s'agit vraiment d'une collaboration, on l'a dit. Il s'agit aussi de sciences ouvertes, hein. On va en parler, parce que l'un des premiers, hein, qui a accepté d'ouvrir et de partager ses travaux, c'est le professeur Bonaventure Sonquet de l'université de Yaoundé 1. Il est chef du département de biologie de l'École normale supérieure de Yaoundé et directeur du laboratoire de botanique systématique et écologie. Son rayonnement, hein, du professeur Bonaventure Sonquet est international. Il est aussi chercheur associé au Missouri Botanical Garden aux États-Unis et à l'Université libre de Bruxelles. Et pour cause, il a découvert près de 60 espèces de plantes et de fleurs en Afrique centrale et au Cameroun notamment. Je vous propose, Gilles Deby et chers amis auditeurs, d'écouter son témoignage assez partageur sur la genèse de ce projet de banque de données RenBio.
Au départ, j'avais une grosse base de données sur toutes les plantes que j'ai collectées jusqu'alors en Afrique centrale et principalement au Cameroun, mais qui était ma base de données personnelle. Évidemment, il y avait des doubles ailleurs, mais c'est moi qui avais la base au départ. Comme Thomas Couvreur, qui était le porteur de ce projet, était en accueil dans mon laboratoire ici à l'Université de Yaoundé 1, l'idée lui est venue d'essayer de rassembler tout. Il m'a posé la question, est-ce que j'accepterais de partager mes données dans le cadre d'une base de données pour qu'on puisse les mettre ensemble, analyser et essayer de voir quelles sont les menaces qui pèsent sur la flore africaine. Parce qu'en réalité, pour pouvoir évaluer les menaces, il faut déjà avoir les données. Et très peu de chercheurs acceptent de mettre les données en commun parce que chacun a toujours peur que l'autre va publier ses données avant lui. Nous avons couru le risque de dire « on va se faire confiance ». On va mettre les données ensemble, on va chercher tous les potentiels partenaires partenaires des institutions ou bien des personnes physiques pour pouvoir mettre ensemble cette base de données et l'évaluer pour savoir, afin de déterminer quelles sont les menaces qui pèsent effectivement sur les espèces.
Vous voulez réagir, Gilles Deby, à ce témoignage du professeur Bonaventure Sonquet à Yaoundé, au Cameroun, que nous avons retrouvé d'ailleurs un petit peu plus tard, toujours par téléphone, dans son laboratoire?
Oui, donc comme il a expliqué, c'est vraiment une initiative déjà à la base camerounaise, puis après qui s'est étendue petit à petit à toute l'Afrique centrale, et puis finalement à de multiples régions, de par justement l'implication de nombreux grands instituts d'herbiers. Donc c'était une initiative qui s'est agrandi petit à petit et qui est arrivé à cette gigantesque base de données qui est vraiment une première pour l'Afrique tropicale.
C'est ça, c'est vraiment une première pour l'Afrique tropicale parce que c'est pas évident cette science ouverte, c'est pas évident de partager ces données. On peut avoir peur, alors, du côté du Sud, de ses confrères chercheurs du Sud, mais aussi que ce soit les chercheurs du Nord qui viennent et qui prennent les données des chercheurs au Sud, qui les collectent tous les jours. C'est pas évident, il fallait effectivement se faire confiance. Il est évident que c'est extraordinaire, parce que c'est aussi des bandes de données qui sont ouvertes à tous, hein, ouvertes à tous les chercheurs. Hein.
Bien sûr, non, c'est... Même si aujourd'hui, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour dire justement que c'est vers là qu'il faut aller si on veut vraiment agir rapidement pour contrer l'érosion de la biodiversité. Il y a quand même aussi pas mal de politiques dans la recherche qui visent à renforcer cet aspect un peu de compétition et individualiste. Et donc, finalement, ce qu'on a fait, ça va vraiment à l'encontre de ces politiques qui, pour moi, sont tout à fait...
Contre-productives, finalement.
Ce qu'il faut faire, c'est justement, je pense, continuer à travailler et à mettre en commun, finalement, ces données.
C'est ça, ensemble, alors nord-sud, sud-sud, on va y venir. Est-ce qu'on a une idée, on comprend bien qu'il y a près d'un tiers de cette faune tropicale africaine qui est menacée d'extinction. Est-ce qu'on a une idée des causes de cette érosion? Est-ce qu'on peut classer les causes par ordre d'intensité? Est-ce que vous travaillez dans cette optique-là, par exemple?
Oui, on y travaille, mais peut-être pas à cette échelle-là, parce que finalement, les causes, elles sont assez diverses en fonction des différentes régions. Quand on parle des forêts, par exemple, d'Afrique de l'Ouest, là, c'est vraiment l'extension des surfaces agricoles, donc vraiment la déforestation. En Afrique centrale, c'est clairement pas la même chose. On a des forêts qui sont finalement encore assez peu intactes et qui même le couvert augmente. Et donc, les causes sont pas les mêmes en fonction des différentes régions. Elles sont donc effectivement surtout liées à l'extension des zones agricoles.
Au changement climatique aussi.
Les changements
aussi
climatiques,
évidemment,
en tout cas pour le moment, c'est quelque chose qu'on a vraiment beaucoup de mal à évaluer, parce qu'on a finalement, pour vraiment évaluer l'impact des changements climatiques sur cette flore-là, on a besoin de données in situ. Là, on peut passer par tout ce qui est modélisation et tout ça. Là, c'est clairement, ça nous montre que, effectivement, l'Afrique tropicale est un des continents, en tout cas une des régions les plus vulnérables face aux changements climatiques qui sont à venir. En tout cas, actuellement, a priori, c'est pas la menace principale, mais dans un futur proche, ça pourrait très, très clairement le devenir, en synergie avec la pression anthropique qui ne fait que s'intensifier via effectivement l'explosion démographique que connaît de nombreuses régions.
C'est ça, c'est plus pour cette flore tropicale qui est assez méconnue. Alors vous, votre spécialité, ce sont les arbres, hein, Gilles Deby.
Oui, c'est clairement ça fait plus de 15 ans que je travaille sur les arbres d'Afrique centrale, donc c'est vraiment un peu mon.
Alors vous avez commencé sur un arbre, vous avez commencé du côté du Gabon, hein, je crois, sur un arbre endémique, parce qu'il y a évidemment des arbres endémiques.
Je travaillais, j'ai commencé à travailler au Gabon, donc sur les forêts gabonaises qui sont en toute subjectivité les plus belles que je connaisse.
C'est pas nos auditeurs gabonais qui diront le contraire.
Et je travaillais effectivement sur vraiment plutôt les communautés d'arbres, donc comment est-ce que les différentes espèces coexistent, comment est-ce qu'elle se distribue à travers le Gabon, qu'est-ce qui explique et quelle est l'origine de ces distributions, de la distribution de ces différentes espèces d'arbres.
Vous dites communauté d'arbres.
C'est ça, oui. Donc c'est vraiment le terme, c'est de comprendre finalement comment est-ce qu'elles s'assemblent dans l'espace, comment est-ce que différentes espèces vont se retrouver ensemble et pas d'autres, et quel va être l'effet, par exemple, des environnements, des perturbations liées à l'homme ou naturelles.
Et on ne retrouve pas les mêmes espèces d'arbres, plus exactement, il y a des espèces endémiques selon les forêts, les lieux, la latitude. Je ne parle même pas de cette étendue géographique extraordinaire, hein, qui va du désert jusqu'au bassin forestier, mais même dans des bassins forestiers, il n'y a pas les mêmes espèces d'arbres selon les régions.
Tout à fait, il y a vraiment des régions où on retrouve des espèces, on n'en trouve nulle part. Donc c'est ce qu'on appelle les espèces endémiques, vraiment restreintes à un territoire très particulier. Je pense notamment à certaines espèces d'arbres qu'on ne retrouve que dans la forêt de la Monda, que les Gabonais reconnaîtront, donc qui est juste en face de Libreville. Et ces espèces ne sont connues que de cette petite forêt qu'on retrouve juste à côté de Libreville, et donc qui sont évidemment hyper menacées par l'expansion urbaine.
Et quelle est l'espèce que vous pourriez nous décrire comme ça, d'arbre qui est véritablement endémique et uniquement extrêmement locale, parce qu'en plus c'est celles-là quand même qui sont les plus menacées, puisque si elles existent, c'est ça hein, quand même le principe, c'est si elles sont très réparties, elles ont plus de chances de s'en sortir que si elles sont uniquement locales.
Oui, mais il y a aussi des exceptions, il y a aussi des espèces qui sont peut-être un peu plus largement réparties, mais qui sont aussi menacées parce qu'elles sont particulièrement recherchées, que ce soit par exemple pour, je pense notamment à l'exploitation du bois, évidemment. Donc,
bien sûr.
Je pense notamment à une espèce en particulier que j'ai bizarrement jamais vue sur le terrain, mais qui est assez intéressante. C'est la Samela, le Pericopsis elata, qu'on retrouve et qui est très très fort recherché donc par l'industrie du bois.
Il est comment cet arbre?
C'est un grand arbre vraiment qui atteint la canopée de ce que j'ai vu par les photos. C'est un assez bel arbre. Et c'est intéressant parce qu'on le retrouve vraiment par poche et pas autre part. Très très fort recherché, et des chercheurs que je connais donc, qui ont pas mal étudié cette espèce ont pu montrer que justement l'origine de ces différentes grandes poches d'arbres, ce serait probablement justement les activités agricoles anciennes, donc là on remonte à 200, 300, 400, 500 ans, donc les pratiques agricoles traditionnelles qui existaient à cette époque-là dans ces régions qui sont aujourd'hui totalement inhabitées, et donc en fait c'est intéressant de montrer que justement la composition des forêts, donc la distribution de cette espèce, était finalement qu'on exploite aujourd'hui, et finalement aussi probablement le résultat de l'activité humaine
c'est
traditionnelle.
C'est ça, c'est qu'au fond, ces communautés d'arbres, même si elles sont en pleine forêt, sont toujours liées quand même, enfin, où on est liés, nous les hommes, ces arbres-là, on a quelque chose à voir là-dedans.
C'est ça, donc ça montre surtout qu'on ne peut pas exclure l'homme, que ce soit évidemment pour comprendre l'évolution future, donc ça c'est une évidence, mais aussi pour comprendre l'évolution passée, l'origine de cette diversité, on doit inclure l'homme et ça nécessite aussi d'avoir des approches assez multidisciplinaires pour mieux comprendre et mieux préserver finalement cette diversité.
Et c'est vraiment des allers-retours, c'est-à-dire effectivement nous menaçons les arbres, mais c'est nous aussi qui parfois avons poussé à leur soit à leur disparition, soit au contraire à leur extension. C'est quand même il y a une histoire commune.
Tout à fait. Oui, c'est vraiment une histoire commune, en particulier en Afrique, parce que voilà, c'est les populations ont beaucoup bougé, elles continuent à bouger aujourd'hui. Il y a des zones aujourd'hui entières qui sont totalement inhabitées, mais si on remonte il y a peut-être 150 ou 200 ans, il y avait énormément de villages dans ces régions-là, donc c'est intéressant.
Autour de la question comment justement s'intéresser et préserver les arbres, les plantes, les fleurs et toute la flore tropicale africaine, allez, c'est Pierre Akendengue sur RFI qui nous entraîne presque chez vous en musique dans sa forêt du Gabon.
La forêt, c'est le livre qui me livre à moi le bien, le mal. La forêt, c'est le livre qui te livre à toi le sursaut vital. La matière, des fruits, des fleurs, oiseaux, fées, primates et petits poissons dans l'eau, la clé du bonheur.
Ma forêt,
c'est ta forêt, la pharmacie du bon Dieu. De ma forêt une poubelle, c'est pas normal. Pollueur d'eau, passeur de fléau, c'est immoral.
Ma forêt, la pharmacie du bon Dieu, c'est Pierre Akendengue sur RFI qui le chante autour de la question comment préserver la forêt et toute la flore tropicale africaine en compagnie des botanistes, écologues, chercheurs engagés au sud comme au nord qui ont déjà réussi à recenser plus de 25 000 espèces de plantes, c'est ça? Ou il y en a encore plus aujourd'hui, Gilles Deby?
Oui, je pense que c'est ça, c'est 25 000, mais il y en a forcément plus.
À recenser encore.
D'avoir tout à recenser.
C'est ça. Donc, déjà 25 000 espèces de plantes, données partagées, et partageables par tous, dans la banque de données RenBio, un recensement qui permet aussi, on l'a dit, d'évaluer qu'un tiers de cette flore tropicale africaine est menacée d'extinction, et donc d'évaluer comment en protéger une partie au moins de cette extraordinaire biodiversité. Comment le fait de recenser, de savoir quoi, la répartition, comment ça peut permettre de mieux préserver, de savoir où il faut et comment conserver, Gilles Deby?
C'est une bonne question. Donc déjà, ce qu'on a pu mettre en place, ça permet aussi de pouvoir très rapidement fournir des diagnostics sur un peu l'état à différentes échelles, que ce soit une échelle plus locale, nationale. Et après, effectivement, c'est alerter. Finalement, je pense que c'est la première chose à faire, c'est d'alerter, d'informer, de montrer l'état de cette biodiversité et pour pouvoir aussi, in fine, espérer que les ONG, les gouvernements ou les instituts plus locaux...
Oui, que les acteurs réagissent.
Les acteurs finalement réagissent.
Impliquer les populations aussi, former aussi des chercheurs sur place, travailler beaucoup en collaboration, en lien avec évidemment des botanistes sur place qui ont parfois déjà une grande connaissance, une bien meilleure connaissance du terrain, mais qui en même temps ont besoin de formation.
Oui, donc c'est formation qui vise surtout à acquérir, je dirais, peut-être une rigueur scientifique, à donner cette lecture vraiment scientifique de la biodiversité. de montrer aussi comment collecter les données, comment les gérer, comment les analyser. Évidemment, il y a toute une série de choses.
Et comment on fait justement sur le terrain? Alors, vous travaillez principalement sur les arbres, mais vous allez étudier les arbres, en prendre des morceaux, regarder où ils sont. Enfin, comment vous travaillez
auprès de vos arbres? En tout cas, pour ce genre de projet-là, le point central, c'est de pouvoir collecter des données. Donc, collecter des données, c'est quoi? C'est essentiellement de faire des herbiers. Donc, c'est de récolter des échantillons de plantes en plusieurs parts et, si possible, fertiles, donc avec des fleurs ou des fruits, parce que ça permet vraiment de mieux identifier l'espèce de la plante. Après, donc, de les sécher et puis de les amener, de les distribuer, les montrer à des spécialistes, des experts qui connaissent bien ce type de plantes pour pouvoir les identifier.
Et ces plantes, donc, on l'a bien compris, hein, cette banque de données, elle est au départ pour la flore tropicale africaine, peut-être s'étendra-t-elle plus loin, mais la flore tropicale du monde est dans le même état que la flore tropicale africaine. Et donc, il s'agit quoi? De recenser, de voir si les espèces sont les mêmes aussi un peu partout, si on pourrait s'inspirer de l'une pour préserver l'autre. Il y a ça dans l'idée, dans l'urgence, hein, de ces herbiers ouverts à tous.
En tout cas, entre les continents, il n'y a pas énormément d'espèces qui sont partagées, je pense, entre l'Amérique du Sud et l'Amérique latine et l'Afrique, il n'y a pas énormément d'espèces qui sont partagées, donc je ne pense pas que ça ferait vraiment sens de les mettre ensemble, enfin de mettre ces banques de données ensemble, donc ce ne serait pas vraiment une priorité, si ce n'est si on veut vraiment travailler à l'échelle globale. Donc je pense que la priorité, c'est vraiment de renforcer ce qui est déjà existant. Donc RENBIO, on établit vraiment des fondations, et il faut renforcer les fondations, il faut continuer à...
Des fondations pour recenser, pour que tous les chercheurs qui s'intéressent à ce sujet et qui s'intéressent à l'évolution et à la disparition de la biodiversité puissent puiser là-dedans, comprendre ce qu'il y a, c'est ça.
C'est ça, donc c'est vraiment pouvoir récupérer et établir un diagnostic très rapidement sur l'état de la biodiversité, sur le nombre d'espèces qui existent, sur le statut de conservation, est-ce que les espèces qu'on y retrouve sont endémiques, on ne les retrouve que là, ou est-ce qu'on sont particulièrement menacées, recherchées. Donc c'est vraiment pour pouvoir accélérer finalement l'évaluation du statut de ces différentes espèces.
Parce qu'aussi, certaines espèces pourraient être très menacées à certains endroits et moins à d'autres. Donc,
oui,
il y avait d'autres pistes à suivre ou d'autres moyens de conserver et de vivre et de laisser vivre les arbres, les plantes et les fleurs.
Oui, il y a des espèces qui peuvent être très, très fort exploitées à certains endroits et beaucoup moins à d'autres. Donc,
Autour de la question sur RFI, comment préserver non seulement la flore tropicale d'Afrique, mais aussi la flore des tropiques en général, que ce soit d'Amérique du Sud, que ce soit de la Caraïbe, d'Asie du Sud-Est. Est-ce que le combat est le même à Yaoundé qu'à Quito? Parce que le porteur de cette banque de données travaille actuellement, il s'appelle Thomas Couvreur, il travaille actuellement à l'IRD et à Quito, en Équateur. Je l'ai joint par téléphone, je vous propose d'écouter son éclairage, justement, depuis Quito, en Équateur.
En effet, les forêts tropicales humides sont distribuées partout autour des tropiques. Et donc, nos recherches que nous menons en Afrique peuvent aussi être exportées et appliquées dans d'autres zones tropicales, comme en Amérique du Sud, et plus particulièrement en Équateur. Et donc, l'idée, c'est de voir un peu comment tout ça évolue et tout ça se dispose en comparant les différentes grandes régions de forêts tropicales humides du monde.
Quel lien vous pouvez faire aujourd'hui que vous êtes basé à Quito, en Équateur, Thomas Couvreur, entre justement ce recensement de la flore tropicale africaine, près d'un tiers menacé d'extinction? Quel lien vous pouvez faire? Est-ce que vous pouvez, c'est pas du copier-coller, mais en quoi ça vous inspire pour votre travail aujourd'hui à Quito, en Équateur?
Donc l'Équateur, c'est un pays qui connaît aussi un des plus forts taux de déforestation en Amérique du Sud. Et il y a des régions, par exemple l'ouest de l'Équateur, qui a été complètement décimé, entre 70% et 80%, 90% des forêts tropicales humides sur la côte pacifique de l'Équateur ont été complètement détruites pour des plantations de bananes ou de cacao. Et donc, on supposerait aussi que dans ces régions-là, il y a aussi une très forte concentration d'espèces menacées, avec beaucoup d'espèces qui ne sont présentes que dans des petites parcelles isolées de forêts. Et donc la méthodologie qu'on a mis en place pour l'ensemble de l'Afrique tropicale pourrait être appliquée ici en Équateur aussi, afin de rapidement identifier des espèces potentiellement menacées et essayer d'identifier des régions qui pourraient être cibles d'efforts de conservation plus importantes dans cette partie du monde. Et bien sûr, notre méthodologie pourrait être aussi appliquée à d'autres endroits dans la planète dans le bassin amazonien, mais aussi en Asie du Sud-Est, qui aussi souffrent de forts taux de déforestation.
Thomas Couvreur, est-ce que vous auriez, du coup, pour terminer, une question à poser à vos collègues, alors le professeur Bonaventure Sonquet à Yaoundé, et à votre collègue Gilles Dobie, qui est avec nous en studio?
Donc moi, ce que je voudrais savoir un peu du professeur Bonaventure Sonquet et des autres, de mes autres collègues, c'est quand est-ce qu'on va pouvoir envisager de faire une base de données non seulement sur l'Afrique tropicale, mais sur l'ensemble de l'Afrique, et pour avoir vraiment une idée des statuts de conservation préliminaires sur l'ensemble de ce continent vraiment incroyable et tellement divers en écosystème. Voilà, ce serait ma question vers eux. Est-ce qu'ils pensent que c'est envisageable un jour de produire une base de données qui englobe toute l'Afrique et pas seulement l'Afrique tropicale qu'on avait étudiée dans notre projet?
Gilles Dobie, vous en pensez quoi de cette proposition inspirante de Thomas Couvreur d'élargir cette banque de données à tout le continent?
Non, c'est une proposition intéressante et je pense que c'est tout à fait envisageable, voilà, à condition de mettre en place la collaboration. Mais je me pose la question vraiment, est-ce que c'est vraiment la priorité? Selon moi, je ne suis pas tout à fait sûr que c'est vraiment la priorité. Comme je disais tout à l'heure, on a vraiment, avec GreenBio, mis en place des fondations, mais des fondations qui sont assez fragiles, donc de cette banque de données. Donc il faut vraiment les renforcer. Et finalement, ce qui fait aussi l'intérêt de cette banque de données, c'est pas seulement voilà qu'elle soit accessible, mais c'est aussi qu'elle soit utilisée par les acteurs. Et donc, à mon sens, pour le moment, on est encore un gros travail pour vraiment renforcer, parce que c'est aussi des données qui sont dynamiques. On a, comme disait le professeur Bonaventure Sonquet, il y a des nouvelles espèces qui sont continuellement décrites tous les jours.
Bien sûr, donc
il faut les inclure. Donc, je pense que le centre de gravité encore de GreenBio est pour moi encore un peu trop au nord, et donc il y a vraiment un gros travail pour vraiment impliquer
plus de chercheurs
du Sud, plus d'instituts du Sud, pour pouvoir in fine faire en sorte qu'elle soit utilisée vraiment, que ce soit vraiment devenir de la référence sur le long terme, quoi. Vraiment pérenniser ce qui est déjà existant plutôt que de continuer. Évidemment, les deux ne sont pas exclusifs, hein. On peut faire les deux en parallèle.
Bien sûr, mais pour vous, oui, c'est ça, il faut vraiment consolider. Qu'est-ce qui empêche, c'est une question de moyens au Sud, de véritablement s'approprier cet outil qui a été fait vraiment en collaboration Nord-Sud?
Il est déjà utilisé, mais évidemment, il y a des moyens limités, mais pas seulement au Sud, au Nord aussi. Hein,
bien sûr.
Disons que quand on veut demander un financement pour consolider ce qui a déjà été existé, parfois c'est moins facile que de démarrer quelque chose de nouveau. On est plus dans la politique du il faut faire quelque chose de nouveau et de sexy plutôt que de renforcer l'existant. C'est une petite critique.
Non, mais je comprends ce que vous dites. Et vous dites, il faut vraiment renforcer l'existant et faire que ça fonctionne, cette banque de données. Alors, je propose de partir justement au Sud et de retrouver à Yaoundé le professeur Bonaventure Sonquet dans son laboratoire de botanique et d'écologie à l'université de Yaoundé. Alors, à la fois pour lui poser cette question que Thomas Couvreur voulait lui poser sur étendre ou non, élargir ou non cette banque de données à tout le continent, mais aussi pour découvrir par onde interposée à la radio et par téléphone quelques-unes des espèces endémiques des forêts centrales d'Afrique centrale et en particulier du Cameroun que le professeur Bonaventure a découvert, recensé avec ses étudiants et ses étudiantes au sein de l'école normale supérieure de l'université Yaoundé 1. On écoute.
Il y a une rubiacée qui s'appelle Ferricanthe lauriana, qui est également une plante très rare, connue de quelques récoltes seulement du Cameroun. Et nous avons également, toujours dans la lignée des plantes qui sont vraiment menacées de disparition, nous avons Polisakia lejoliana, qui est également une orchidée. Donc, quand on parcourt la liste de toutes ces plantes menacées, elles sont nombreuses. Et je dois dire, par exemple, que la rubiacée dont il est question est une espèce que moi-même, je l'ai récoltée et décrite pour la première fois, qui a été publiée pour la première fois dans le cadre de nos activités de recherche.
Vous pourriez nous la décrire, cette plante, justement, professeur Bonaventure Sonquet, que vous avez décrite, au fond, avant qu'elle ne disparaisse, disons?
C'est un arbre qui ne dépasse pas 10 mètres. Elle a des belles fleurs, et ce qui nous a frappé, c'est que, avec toutes les missions de terrain que nous avons faites, nous avons vu cette plante à une seule fois. Vous comprenez donc qu'elle est vraiment rare. Et il est urgent que pour cette plante, comme pour d'autres, que des mesures de conservation soient prises pour que ces plantes-là ne disparaissent pas à jamais. Et une autre des dispositions que nous essayons de faire maintenant, depuis que nous sommes face à cette situation, nous essayons de mettre en place des stratégies de conservation ex situ. C'est-à-dire, nous essayons de procéder à deux choses. Nous avons conçu une ombrière à l'université de Yaoundé 1, où nous essayons de recultiver ces plantes dans l'optique de les replanter dans la nature dont nous aurons réussi à les recultiver. Et aussi, nous avons une autre option que nous essayons également de développer, c'est la banque de graines, c'est-à-dire obtenir des graines de ces plantes qui sont menacées et les mettre dans une banque qu'on va redistribuer dans certaines institutions qui ont également comme cœur de métier la conservation des espèces.
Ah oui, donc c'est vraiment un travail de recherche qui a une application immédiate.
C'est ce que nous essayons de promouvoir et nous espérons avoir le soutien des autorités en charge de la gestion des forêts pour ce programme de conservation que nous essayons de développer en tant qu'universitaire. Nous voulons essayer d'impliquer les praticiens, les conservationnistes sur le terrain pour nous aider à mener ce grand projet.
Et ça marche? Vous y arrivez ou...
Ben, disons que c'est toujours difficile pour un début parce que ça demande de l'argent, ça demande des financements et c'est toujours difficile de convaincre les bailleurs de fonds pour leur dire nous voulons conserver, nous voulons faire de la conservation ex situ et nous voulons mettre en place des stratégies de conservation. Mais nous y arrivons tout doucement avec peu de moyens et nous pensons que les résultats vont faire tache d'huile de manière à ce que nous pourrions engranger de moyens plus conséquents.
Espérons, oui, que ça fasse tache d'huile, d'autant que vos travaux, ces recherches, ce recensement, est-ce que vous essayez de faire, peut profiter à tout le Sud, hein, puisque maintenant Thomas Couvreur est en Équateur, donc il se pose les mêmes questions ailleurs sur le globe, donc il y a vraiment un partage de savoir Sud-Sud. Et d'ailleurs, Thomas Couvreur, depuis Quito en Équateur, avait une question pour vous, professeur Bonaventure Sonqué. Il vous demandait si vous pensez qu'il serait possible d'étendre cette banque de données, finalement, à toute l'Afrique, à tout le continent africain. Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais je pense que c'était ça l'objectif, c'est-à-dire montrer que c'est possible de le faire et de respecter, j'ai envie de dire, le copyright et l'implication des gens dans ce partage de données. C'était ça notre idée, de dire, vous voyez, ça peut se faire et inviter d'autres personnes à mettre dans la banque les données qu'elles hésitent à partager jusqu'à présent.
Le professeur Bonaventure Sonqué, modèle hein, d'inspiration pour une science ouverte avec partage des données au sud comme au nord. Alors c'est vrai que les questions se posent peut-être pas tout à fait de la même manière. On sent bien que le professeur Bonaventure Sonqué, il a vraiment besoin de mobiliser sur place, hein, que ce soit les décideurs, les gouvernants, les bailleurs de fonds, pour soutenir le travail considérable qu'il fait, j'ai envie de dire, parce que tout seul avec ses étudiants de son côté. Et en même temps, votre point de vue, Gilles Dobie, qui est de dire, mais finalement, il faut aussi bien consolider au nord ce qu'on est en train de faire dans cette bande d'Afrique tropicale, c'est ça?
Oui, c'est ça. Non, c'est clair qu'il faut vraiment agir à différents niveaux et... Et effectivement, comme le dit le professeur Bonaventure, ce que je m'en souviens plus, mais ça fait quelques années, mais c'est vrai qu'au début, quand on s'est lancé dans cette aventure, il y avait quand même pas mal de réticences, comme qu'on n'y arriverait pas. Et finalement, on a montré qu'on pouvait y arriver. Et
voilà,
que maintenant, ça, comme il dit, ça peut vraiment faire tache d'huile. Et,
c'est ça.
Et ça peut engager d'autres personnes et d'autres institutions.
Et vous me disiez bien aussi que cette méthodologie que vous avez appliquée pour le recensement, pour cette banque de données, pour la mettre à jour régulièrement, c'est une méthodologie, par contre, elle, qui peut vraiment s'exporter sur tout le continent, mais aussi ailleurs, dans la bande tropicale. C'est vraiment une manière de fonctionner main dans la main et avec peu de moyens, on va dire, sud-sud, nord-sud, qui peut vraiment s'exporter ailleurs aussi. Hein.
Oui, c'est tout à fait transférable, clairement, comme méthodologie.
Est-ce que on peut se poser une question aussi en entendant le professeur Bonaventure Sonqué qui parle de faire des plantations ex situ, donc d'avoir d'autres manières de conserver, de préserver ou de garder les graines, enfin voilà, de véritablement de voir comment est-ce qu'on peut faire pour limiter l'extinction de cette formidable biodiversité tropicale et formidable biodiversité de l'Afrique tropicale. Mais est-ce que, alors évidemment on se dit que ça doit servir à quelque chose, mais est-ce que l'érosion que vous observez, est-ce que c'est un peu, se pose la même question pour les animaux? Là pour la flore, est-ce que c'est un phénomène réversible ou pas? Est-ce que des propositions comme des plantations ex situ, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être réversibles justement? Est-ce que c'est pas juste l'observation d'une flore qui est en train de disparaître?
Bah, c'est une question très complexe et finalement on n'a pas vraiment d'éléments de réponse que maintenant parce que c'est tout le domaine de la restauration écologique. Est-ce qu'on est vraiment capable de récupérer l'état initial? Mais déjà, on est déjà, enfin, j'ai à ma connaissance très peu d'études en tête qui ont vraiment travaillé sur la question de la restauration écologique, parce que par définition, ce sont des études qui doivent prendre vraiment beaucoup de temps, sur plusieurs années. Et effectivement, c'est très difficile de mettre ça en place en Afrique. Et puis après, ça pose aussi la question de savoir quel est l'état original de la flore et quel est l'état original de la végétation qu'on veut remettre en place. Donc, en fait, je pense que tout simplement, c'est complexe et pour le moment, on n'a pas vraiment d'éléments de réponse à ce niveau-là. Quoi.
Et pour le moment, il faut continuer à recenser tout ce qu'il y a à observer, à s'émerveiller aussi, parce que quand même, on n'a pas parlé de ça, mais c'est extraordinaire, parce que toutes ces fleurs, ces orchidées que nous décrivait le professeur Bonaventure, les arbres autour des, près desquels vous travaillez, enfin, tout ça, c'est aussi d'une beauté, mais extraordinaire, remuante, enfin, une vraie beauté, quoi, profonde.
Non, oui, il y a vraiment moyen d'être fasciné par ce milieu-là. Qui peut être d'un côté effrayant, mais aussi, en tout cas au premier abord, mais assez rapidement fascinant. Enfin, dès que j'ai mis les pieds en forêt gabonaise il y a quelques années, j'ai vite compris que j'allais pas la quitter d'aussitôt.
C'est ça, et vous ne la quittez pas, hein, parce qu'on va y revenir. Vous allez maintenant en face du Gabon, hein, sur l'île de Sao Tomé, pour d'autres projets autour de la flore, justement, de l'Afrique tropicale. Vous avez choisi, en tout cas, de vous arrêter, Gilles Dobie, en musique, non pas dans la forêt, mais dans une région, on va dire, plus désertique, de l'autre côté, du côté du Mali, avec le Toumani Diabaté Symmetric Orchestra sur RFI. On vous en remercie, d'ailleurs. Toumani Diabaté Symmetric Orchestra sur RFI. Très joli choix de notre invité, l'écologue de l'IRD, Gilles Dobie, autour de la question comment préserver la diversité de la forêt et de la flore tropicale africaine. Et vu que vous êtes, Gilles, spécialisé dans l'étude des arbres africains, on a un petit cadeau radiophonique pour vous et pour vos collègues, hein, les professeurs Bonaventure Sonquet à Yaoundé et Thomas Couvreur à Quito, en Équateur, que l'on salue au passage. C'est une dédicace du botaniste Francis Allais, spécialiste et merveilleux connaisseur et dessinateur des arbres des forêts tropicales. Il a été entre autres le héros d'un des films de Luc Jacquet, Il était une fois la forêt, où on le voit perché tout en haut de la canopée pour dessiner. Francis Allais nous dessine un arbre à la radio. C'est pas simple, mais c'est pas si compliqué que ça non plus.
Pas très compliqué, un tronc de cône en bois qui représente le tronc. Le tronc, c'est l'élément fondamental de l'arbre. Donc je commence par ça, un tronc de cône en bois. Voilà, au-dessus, il y a des branches et des feuilles qui forment comme un hémisphère. Et en dessous, il y a un autre hémisphère qui est fait de racines et qui est beaucoup plus grand que celui que vous voyez.
Oui, et oui. C'est fondamental ce qui se passe en dessous, évidemment.
Ah ben, pas question d'arbres sans racines. Si vous voulez rendre compte d'une structure végétale, il n'y a pas d'autre choix que le dessin. Moi, je ne peux pas dire que je connaisse une plante tant que je ne l'ai pas dessinée. Et ce n'est pas de faire clic avec un appareil photo.
Ça ne suffit pas ?
Ah non.
Pourquoi ?
Une question simplement pratique. Ça ne détache pas la plante du fond sur laquelle elle se trouve.
Quand vous le dessinez, vous l'isolez ?
Ben, je ne dessine qu'elle.
Bien sûr.
Et le fond, c'est le papier blanc. Déjà, rien que ça, ça fait une énorme différence.
Et voilà pourquoi et voilà comment Luc Jacquet, dans son film Il était une forêt, a choisi comme fil conducteur vous et vos dessins
en train de dessiner
dans la forêt.
Il a eu raison, parce que si vous dessinez, c'est que vous êtes bien et que vous avez du temps. On ne fait pas ça dans un endroit désagréable, assailli par tout un tas de bestioles. Non, non.
Et vous êtes bien, dans la forêt tropicale et en haut de la canopée.
Je suis extrêmement bien. D'ailleurs, je pense qu'un des rôles de ce film, c'est de nous débarrasser des poncifs de l'époque coloniale, selon lesquels ces forêts équatoriales étaient dangereuses, laides et sans intérêt.
Ouais,
là, et je sais bien, je vois d'où ça vient. On voit à qui ça profite, cette image négative de la forêt. Évidemment, à ceux qui la coupent.
J'ai envie de vous faire réagir, Gilles Dauby, à la fois à ce dessin, à la manière dont Francis Allais parle du fait qu'il faut dessiner les arbres et les feuilles dans la forêt, et puis évidemment à sa réflexion sur une manière de véhiculer toujours des clichés de l'époque coloniale ou des coupeurs de bois sur les dangers et l'horreur de ces grandes forêts équatoriales.
Oui, c'est assez fascinant. Effectivement, je l'ai vu dessiner, même s'il n'était pas là. Très intéressant, et bon, oui... C'est vrai que je me souviens la première fois que j'ai mis les pieds en forêt, j'avais beaucoup d'a priori, je sais pas d'où ça venait, je sais pas si c'était les discours. Mais petit à petit, voilà, on s'habitue et finalement, à partir d'un certain moment, on se sent mieux en forêt qu'en dehors.
On se sent comment justement? Vous dessinez vous aussi?
Non,
forêt,
malheureusement,
non, quand vous étudiez
malheureusement
les arbres.
Non. J'aimerais bien avoir ce talent, mais.
Mais comment on se sent justement au milieu de vos arbres? Vous allez, on l'a dit bientôt, hein, je crois, repartir pour l'île de São Tomé e Príncipe,
c'est oui, ça, c'est ça ouais.
Qui est une île en face du Gabon, en gros.
Oui, c'est environ 300 km au large du Gabon, donc c'est une île volcanique, pas très grande, mais...
Et qu'est-ce que vous allez justement y faire? Étudier, recenser la faune, les arbres, former sur place des chercheurs? Qu'est-ce que vous allez y faire et y refaire encore?
Ben, un peu tout ça. Donc on a un projet avec plusieurs partenaires portugais, locaux, même gabonais qui sont impliqués dedans. Et l'objectif principal, c'est vraiment de pouvoir étudier et caractériser la flore menacée de cet archipel. Donc pas seulement São Tomé, mais aussi l'autre île Principe. Et ça implique aussi donc effectivement de faire des inventaires assez poussés, de mieux connaître les espèces, de mieux connaître les menaces qui pèsent sur les espèces. Et puis ici également, il y a tout un volet de formation, donc vraiment de former différentes personnes à mieux connaître, à mieux collecter et à mieux évaluer les menaces qui pèsent sur les espèces.
Comment est-ce que vous pourriez nous partager, avant de ne pas nous faire un dessin, mais de nous faire partager peut-être un des arbres emblématiques de l'île ou un arbre... Tiens, il y en a un qui a été découvert, enfin, qu'on connaissait localement, mais qui a été recensé il n'y a pas très longtemps, je crois.
Oui, c'est ça. Donc, en fait, à São Tomé, il y a un arbre qui est très connu localement, mais bon, c'est qui s'appelle le gogo. Donc
le
en fait,
gogo,
c'est, gogo, c'est un grand arbre, c'est un carapa, pour ceux qui connaissent les arbres tropicaux. Mm-hmm. Et c'est un bel arbre aussi qui est assez fort recherché par les exploitants forestiers, parce que c'est un très bon bois. Et alors, ben, c'est pas moi qui ai découvert ça, mais bon, c'est mes collaborateurs sur place qui ont découvert sur l'autre île donc, de l'archipel, Principe, aussi un arbre qui s'appelait gogo. Et donc, à première vue, on s'est dit que c'était forcément le même arbre, et ils ont le même nom commun, mais en fait, on s'est assez vite rendu compte que le gogo de Principe n'avait rien à voir avec le gogo de São Tomé, même si dans les deux cas, ce sont deux grands arbres, mais c'était même pas la même famille. Donc, et voilà, c'est aussi, ça souligne aussi l'importance d'avoir aussi une approche, je dirais, scientifique.
Génétique pour le coup ou même pas
C'est comme si on confondait un pommier et un figuier.
Et oui,
donc
bien
ça
sûr,
n'a
d'accord.
Vraiment rien à voir, même si dans les deux cas, c'est deux grands et beaux arbres. Et donc voilà, c'est intéressant. Et donc finalement, c'était un arbre qui était une espèce qui n'était pas du tout connue et donc qui se sont rendus compte qu'il est vraiment présent dans quelques populations présentes sur l'île de Principe et donc qui est aussi particulièrement menacée.
Et donc de l'importance aussi de travailler, évidemment, de former et de travailler avec des chercheurs locaux, mais aussi avec des habitants qui doivent eux-mêmes connaître,
bien
évidemment,
sûr,
parfaitement.
Bien sûr, sur place, particulièrement à Sao-Tomé, enfin, ce que j'ai vu, c'est que effectivement, la flore est quand même assez connue, mais c'est le nom commun. Et donc c'est vraiment un échange, en fait, c'est un échange entre nous, on apporte nos bagages scientifiques, notre connaissance des plantes, voilà, taxonomiques rigoureuses, et puis il y a vraiment un échange qui s'établit entre leurs connaissances, je dirais, empiriques de la forêt et nous, ce qu'on apporte via nos...
Voilà. Et c'est indispensable, de même qu'on parlait de sciences ouvertes et de collaboration et d'ouvrir ses collections quand on est un chercheur au sud comme au nord, c'est indispensable qu'il y ait une implication aussi évidemment locale, parce que c'est pas nous au nord qui allons préserver
sûr,
la forêt tropicale
au sud. C'est ce qui permet
sud.
De vraiment pérenniser notre recherche vraiment sur le long terme. Si on ne forme pas sur place et si on n'appuie pas les instituts sur place, Tout ça n'a pas d'avenir, donc il faut vraiment continuer là-dedans. Donc dans IRD, il y a des recherches, mais il y a aussi développement. Donc...
Oui, c'est ça, un développement et formation. Vous y retournez quand et vous y cherchez quoi cette fois-ci?
Donc j'y retourne au mois de mars, et donc on va vraiment intensifier des inventaires dans certaines régions, en particulier le sud-ouest, où il pleut 8 mètres d'eau par an. Il y a très peu de gens qui ont été jusque-là.
D'accord, ça va bien
pourquoi.
Vert. Hein. Eh oui, c'est ça. Mais vous y allez.
On y va, on est motivé, on y va.
Merci infiniment, Gilles Dobby, d'être venu avant de partir à Sao-Tomé dans notre studio. Merci évidemment à vos confrères, au professeur Bonaventure Sonke à Yaoundé, qu'on aimerait soutenir un peu plus et qu'on espère peut-être avoir accueillir un jour dans notre studio. Un grand salut aussi à Thomas Couvreur à Quito, en Équateur, que nous avons jusqu'à présent réussi à joindre que par téléphone. Donc Thomas Couvreur, un petit appel du pied, vous aussi, comme Bonaventure Sonke, c'est quand vous voulez, avec vous Gilles Dobby, vous êtes bien sûr bienvenue, longue vie à Rennes Bio, cette formidable banque de données, en espérant qu'elle fasse des petits, hein, disons qu'elle s'élargisse au continent africain et puis qu'elle serve de modèle dans toute la bande intertropicale. Merci à vous Gilles Dobby.
Un grand merci.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté, chers amis fidèles et curieux auditeurs et auditrices. Avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses, c'est autour de notre table ronde mensuelle que nous nous retrouverons demain avec nos confrères et consoeurs de la presse scientifique. Il y aura comme chaque mois, vous le savez, des magazines à gagner. Surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure des infos.